Un bon boulot, témoignage et discussion sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Morgane, qui est entrée d'abord par hasard à Radio U. Elle y a été bénévole, puis service civique, puis présidente. Puis, avant même que cela semble possible, s'est imaginée salariée de la radio et elle a fait ce qu'il faut pour cela. Avoir une vision stratégique, apprendre à la volée et aussi accepter certains renoncements. En racontant son histoire, Morgane va aussi nous raconter celle de Radio U. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Avant d'aller sur Radio U et puis sur le travail que vous faites en ce moment, on va revenir bien en arrière à un moment où on commence à nous poser des questions sur l'orientation. Des fois, c'est très jeune. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, mon petit, ma petite ? Comment ça s'est passé pour vous vers l'âge de, en général, ça arrive, vers 16 ans, par là, parfois avant. On nous demande quel boulot on veut faire, etc.
Moi, avant 16 ans, je savais que j'ai toujours adoré l'histoire. L'archéologie, ça me passionnait quand j'étais petite. Pendant longtemps, j'ai cru que je voulais être prof. Et arrivé au lycée, je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose. Je me suis mise à m'intéresser plutôt au champ de la psycho, de la socio. Et au fond, je me disais, tiens, EDUXP, ça me tenterait bien.
D'accord, ça n'a rien à voir avec la radio.
Non.
Ça, c'est pas le plus beau, enfin le plus beau, le plus... Comment pousser de la psycho non plus. Enfin, moi, je connais quelqu'un qui... Ma femme a été EDUXP, donc je crois que c'est un secteur difficile. EDUXP ou archéologue, c'est ça?
L'histoire reste dans un coin de ma tête, mais on va dire que quand il s'agit, donc à ce moment-là, de faire des choix sur Candisup, hein, c'était le site à l'époque où il fallait rentrer ses voeux d'orientation. Moi, j'ai envie d'aller en psycho, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais je suis face à un mur qui sont mes parents à ce moment-là, qui refusent catégoriquement que je parte faire des études à Brest, parce que je suis de Quimper.
Ah oui, ça c'est...
Et qui me disent, non, de toute façon, toi t'aimes bien l'histoire, tu vas en licence d'histoire à Quimper. Et le choix ne m'est pas laissé sur le moment, donc...
Le choix veut dire de rester à Quimper ou d'aller à Brest, c'est ça?
Ouais, et puis donc le choix de faire de l'histoire en fait, hein, parce que
À Quimper, c'était forcément de l'histoire.
Oui, bah oui, parce qu'il y avait pas de, il y avait pas ni, il y avait pas psycho, il y avait pas. J'apprends ça un peu au dernier moment sur le tas. Il me laisse un peu espérer jusqu'au bout et finalement arrivé au moment des choix, le choix m'est un peu imposé. Donc l'histoire, ça m'intéresse, hein, j'y vais pas non plus complètement à reculons, mais sur le moment, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire.
D'accord, bon, ça démarre pas très bien là. De l'histoire à la radio, il se passe pas mal de choses parce qu'il y a le travail, il y a l'orientation professionnelle, mais il y a aussi le travail qu'on fait quand on est jeune parfois. Et vous avez fait pas mal de boulot assez jeune, ouais.
Dès 18 ans, je travaille parce que j'ai envie de pouvoir me payer des vacances, des fringues, d'aller en piste avec les copains, donc il faut des sous pour ça. Dès 18 ans, en fait, je commençais à faire des petits boulots, donc j'ai beaucoup bossé dans l'hôtellerie-restauration, quoi. J'ai été femme de chambre, barmaid, équipière à McDonald's, et j'en passe, donc j'ai un peu tout testé.
Avant d'arriver au suivant, il y a un autre boulot qui vous a aidé, mais sur ces boulots-là, quelle idée ça vous donne du travail?
Alors, du travail, je sais pas. Mais des gens, un peu plus. Dans l'hôtellerie-restauration, on croise beaucoup de gens. Donc, mes premières expériences, qui sont quand même plutôt le poste de femme de chambre et puis un peu plus tard le boulot d'équipière à McDo, c'est quand même des boulots où je ressens du mépris. C'est quelque chose d'assez fort. Pas tout le monde, évidemment. Il y a des gens qui sont tout à fait corrects quand ils s'adressent à moi. Mais c'est quand même des boulots où je trouve que parfois, ouais, effectivement, on peut ressentir du mépris de la part des clients avec qui on travaille. Et donc ça, c'est déjà un premier petit truc qui me fait tiquer. Mais je ne m'arrête pas à ça. Et puis, c'est des boulots alimentaires. Donc, j'arrive à laisser couler ça assez facilement quand même.
D'où vient ce mépris, d'après vous ? Quelle hypothèse vous faites ? Pourquoi ? C'est parce que c'est le statut que vous aviez ou...
Je pense qu'il y a un statut. Et après, moi, j'ai une théorie qui est peut-être très, très fumeuse. Des fois, je me demande si ce n'est pas le fait qu'on s'occupe un peu... Enfin, quand on est femme de chambre, on rentre dans l'intimité des gens. On voit un peu là où ils ont dormi, les saletés qu'ils ont laissées derrière eux. On vide leur poubelle. Peut-être que quand on va à McDo, au fond, on a un petit peu honte aussi, je ne sais pas, d'aller chercher un Big Mac. Je ne sais pas. Il y a peut-être une sorte de complexe de face à la personne qui vous voit comme ça consommer ça. Je n'arrive pas trop à savoir. Et puis, je pense aussi que peut-être c'est des endroits où on ne va pas forcément pour passer, je ne sais pas, du bon temps ou quoi. On est là de passage et certaines personnes, peut-être, ça les autorise à tout d'un coup avoir un comportement qu'ils n'auraient pas autrement. C'est dur à expliquer. Hein.
Oui. Non, moi, ce que je comprends, c'est peut-être le travail précis là, de femme de chambre ou serveur à McDonald's vous donne un regard, de fait, sur les gens qui n'ont peut-être pas envie de recevoir. Je sais pas. Enfin bon, c'est pas l'essentiel. Voilà, après, ces boulots vraiment difficiles. Ah oui, sur l'argent, que pensiez-vous de l'argent qu'on vous donnait en échange de vos efforts, hein?
Je pense qu'à cette époque-là, j'avais un rapport assez... assez j'étais contente d'avoir un peu de sous pour... C'était de l'argent de poche, hein, pour aller m'amuser. J'étais encore chez mes parents à ce moment-là, donc je n'ai pas vraiment une grosse réflexion là-dessus.
Vous ne trouviez pas que vous étiez mal payé, quoi. Enfin, ce n'était pas une réflexion de toute
façon.
Non,
parce que je n'avais pas un loyer à payer, un frigo à remplir. C'était vraiment de l'argent de poche. J'étais encore chez mes parents, donc c'est vrai que... Et puis, j'étais pas dans une logique de mettre des sous de côté. C'était vraiment pour m'amuser. Donc, à ce moment-là, non, j'ai pas le sentiment d'être mal payée. Et ce qui est le cas, sans doute, hein, de toute façon. Ça me pose pas question, en tout cas.
Donc, vous habituez progressivement à gagner pas tant que ça d'argent.
Effectivement.
On fait une prospection. Et voilà. Et après, il y a un travail qui peut être très dur aussi, hein, dans un bar, d'être serveuse. C'est pas un bar de nuit, mais c'est un bar où ça tourne le soir aussi. Donc chacun peut imaginer l'ambiance. Ça peut être bruyant, ça peut être etc. Mais là, pour vous, ça semble. Enfin, vous prenez que le meilleur, semble-t-il. Racontez un peu ce travail là dans ce bar.
Ouais. J'ai été serveuse dans ce bar là pendant plusieurs années, hein, parce que je faisais. Donc j'étais toujours étudiante à côté, mais j'étais. Je faisais toutes les vacances d'été, toutes les vacances de Noël, les vacances de Pâques. Enfin, dès qu'il y avait des vacances, j'y allais, quoi. Donc, j'ai finalement pas mal bossé là-bas, quand même. Et effectivement, ça pouvait être des amplitudes horaires. Alors, ça pouvait être en journée, mais je pouvais aussi finir à 1h du matin. Temps de faire le ménage, tout ça, on finit à 2-3 heures du matin. Donc, c'est un mode de vie un peu spécial. Mais j'étais jeune, ça me dérangeait pas. C'était un peu mon rythme classique.
Enfin, c'est tout en faisant les études quand même.
Et oui, c'était en faisant les études, mais c'était quand même surtout sur les périodes donc de vacances, hein, que je travaillais. Donc soit j'étais en cours, soit j'étais au bar, mais je faisais pas les deux en même temps.
Okay.
Donc c'était vraiment jouable au niveau des horaires. Et ouais, mais c'est une expérience que j'ai adoré, quoi. Enfin, c'était vraiment pour le coup, je pense que les gens vont pas au bar comme ils vont à McDo. C'est un temps de convivialité, on se retrouve avec ses copains, on va boire un coup, l'ambiance est très différente, le rapport au barmaid est très très différent aussi, le regard porté, je pense, par le client est très différent, tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Il peut y avoir aussi des gens sous.
Oui, ça peut arriver, il y a toujours des gens un peu désagréables parfois, mais dans l'ensemble, il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était vraiment bon enfant, et pour le coup, ça laisse aussi le temps. Moi, j'ai plein de souvenirs, donc je faisais aussi la journée, hein. Et donc forcément, c'est un bar où il y avait aussi pas mal d'habitués qui venaient pas forcément le soir au moment où c'était le plus festif, où il y avait le plus de bruit, mais qui venaient en journée. Et c'est des gens avec qui on discute, en fait, au bar. Quand on est barman, on est derrière le comptoir... En début de journée, il n'y a pas grand monde, donc on va servir le café, le petit rouge, le demi, et on reste discuter avec des gens. Et finalement, ça offre la possibilité de discuter avec des gens avec qui on n'aurait peut-être jamais discuté sinon. Ça crée un prétexte pour échanger, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que sur une période de 3 ou 4 ans, j'ai rencontré plein de gens très, très différents. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était une... Ouais, j'ai vraiment adoré cette expérience.
Ça devient un véhicule, en fait, social, presque. Et ouais. Autre, parce que rétrospectivement, l'autre jour, quand on s'est rencontrés, vous en faisiez presque une première école. Donc, le rapport social, qu'est-ce que d'autre ça peut apporter à apporter ce travail ? Peut-être le fait de travailler en plaisir, avec du plaisir.
Ouais, travailler avec du plaisir, ça c'est certain. Je pense une ouverture quand même sur les autres aussi, quoi. Une ouverture sur de nouvelles idées, une ouverture sur d'autres façons de voir les choses, sur ce que je trouve intéressant avec le bar, c'est que je vais faire peut-être une comparaison, je sais pas, un peu facile, mais on a tendance aujourd'hui à considérer que par exemple les réseaux sociaux c'est quelque chose de très enfermant. L'algorithme nous renvoie toujours vers des choses qu'on connaît. Ce que je trouve vachement intéressant avec le bar, et notamment quand on est derrière le comptoir, c'est que c'est le chaos, en fait. On tombe sur des gens complètement par hasard, qui peuvent avoir des idées très différentes des nôtres, qui peuvent avoir des vies très différentes des nôtres, et je trouve ça hyper intéressant, justement, de se confronter à toute cette diversité-là, cette ouverture sur les autres, sur les réalités très différentes que peuvent vivre les gens. Et ça, moi, je pense que ça m'a vraiment donné... J'étais curieuse déjà à la base, je pense, mais ça m'a vraiment donné une curiosité de l'autre, d'aller vers les autres, d'essayer d'apprendre à les connaître. Ça, c'est clair, ça a vraiment alimenté ça, quoi.
D'accord. Et alors, on va poursuivre le chemin universitaire. Donc, d'un côté, vous faites ce travail. De l'autre côté, vous avez fait une licence, même une maîtrise, je crois.
J'ai une licence d'histoire. Ensuite, j'ai fait un master 1 recherche en histoire contemporaine. Et ensuite, j'ai fait un master pro métier du livre et de l'édition.
Ouais. Voilà, alors master pro, donc du coup, c'est comme un choix, ça. Master professionnel, hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Quel est l'intérêt, quelles sont les raisons du choix de ce master pro, hein?
Bon, alors, comme je ne voulais pas aller en histoire et que je ne voulais pas devenir prof, ça, on l'a dit.
D'accord.
Il fallait bien que je trouve une voie de sortie. Parce que bon, avec un master d'histoire, si on ne veut pas être prof ou qu'on ne veut pas passer de concours ou d'agrég, on ne fait pas grand-chose, quoi.
Mais enfin, dès la première année d'histoire, vous ne vouliez pas être prof, mais vous continuez. Ouais.
Bah, j'ai pas le choix, en fait. Hein.
Oh là là, les parents.
Puis ça m'intéresse quand même. Enfin, je vais dans les amphis, moi, je suis curieuse. Il y a des gens qui racontent des trucs un peu intéressants, je prends des notes. C'est vrai. Je me fais des amis, je bosse à côté, je vais un peu avec le flow, quoi. Mais je suis consciente que ça ne va pas me mener à un métier, ça c'est clair, parce que je n'ai pas envie d'aller vers ça. Donc j'attends de voir un peu, et effectivement, j'entends parler de ce master qui à l'époque était à Brest, il n'existe plus maintenant, ce master pro métier du livre et de l'édition. Moi j'adore le livre, j'adore la bande dessinée, j'adore... c'est vraiment mon truc, quoi. Donc, je me dis, bosser dans le livre, ça pourrait peut-être être sympa, pourquoi pas. Et donc, j'entends parler de ce master pro. Et la condition sine qua non pour pouvoir rentrer dans ce master pro-là, c'est un M2 pro. Donc, il faut avoir un M1 dans une autre discipline, quoi. Donc, je m'engage dans le master recherche en histoire contemporaine, en ayant déjà un peu dans l'idée de me dire que je voudrais intégrer ce master pro-là, quoi.
D'accord. Alors, le métier du livre, moi, je suis bibliothécaire, donc il y a ses joies et misères. Hein. bref. Et libraire, c'est un métier fantastique, mais quand on est souvent, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour être libraire, souvent on est plutôt... c'est un travail très mal payé aussi.
Je l'ai fait un peu aussi, ouais.
Et puis l'édition, on a l'impression que si on n'est pas né à Paris, ça ne marche pas. Alors... comment vous débrouillez avec cet univers à la fois attirant, brillant, mais dans le concret, soit c'est pas facile, soit ça peut être plus terne qu'il n'y paraît.
Moi, dès le début, je me dis que j'ouvrirai ma librairie. Alors, je pense
c'est incroyable l'optimisme que
voilà,
vous avez.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un point fort et parfois un point faible aussi, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste dans la vie. Et que je ne me mets pas vraiment de barrière. C'est-à-dire que du coup, je me dis, on verra, j'essaierai, on verra, qui ne tente rien à rien.
C'est sûr.
Et au fond de moi, je me dis, bosser en librairie, alors peut-être au départ, bosser dans des librairies qui ont déjà pignon sur rue, être salarié, et puis avec cette optique de me dire, moi, j'ouvrirais bien ma librairie, je ne sais pas, BD, comics, manga, un jour, ça me tenterait bien. et avec ce truc déjà de me dire que j'aimerais bien quand même faire un peu d'événementiel aussi autour du livre, ça me plairait bien. Donc j'ai quand même un peu un projet quoi, quand je me lance là-dedans. Très vite, je me dis que j'ai pas envie d'aller vers l'édition, parce que je sais que ça implique d'aller à Paris, que je sais que ça, voilà, ça implique, en plus de bosser à des postes dans l'édition au départ, qui m'intéressent pas vraiment. Moi, il y a des trucs qui m'intéressent dans l'édition, mais par exemple, je sais pas, le secrétaire d'édition, par exemple, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse un peu, c'est la fabrication des livres, comment on les fait, comment on choisit, enfin, comment on arrive à l'objet aussi à la fin.
D'accord.
Donc c'est ça m'intéresse aussi, peut-être un peu le travail sur, avec les auteurs, mais pas forcément le travail sur le texte, quoi. Ça, c'est un truc qui m'attire pas trop. Et beaucoup quand même de mes camarades vont vers ça, quoi. Donc moi, je me rends compte que ça va pas me plaire. Donc finalement, la librairie, arriver à ce stade-là où il faut parler de livres avec les gens, ça me dit bien. Puis il y a déjà ce goût-là pour les autres. Donc, je me dis, ouais, bosser en librairie,
okay.
Conseiller des gens, ça me tente très bien.
Est-ce que ça se concrétise d'une manière ou d'une autre?
Oui, je fais tous mes stages de fin d'études en librairie, en fait, et en festival de livres. Donc je fais...
Ah oui, festival de livres, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment un événementiel. Ouais.
Oui, je fais Étonnant Voyageur, mais en tant que libraire...
Vous avez fait Étonnant Voyageur?
J'ai été sur un des principaux stands de libraire d'Étonnant Voyageur. Je bossais à ce moment-là pour la Droguerie de Marine à Saint-Malo. Donc je l'ai fait une première année en tant que stagiaire, et puis je leur ai filé un coup de main l'année suivante aussi. Pareil, je rencontre plein de gens super qui bossent.
Mais ça, c'est un peu épuisant aussi, les festivals, parce que c'est des hangars, le son est punible.
Ouais, mais en même temps, on rencontre plein de gens. Je me suis retrouvée au resto avec Claude Villers, quoi.
Ah, d'accord, ouais.
Ça s'en rend pas, quoi.
C'est une légende, ouais.
Ouais, donc c'est des trucs. Enfin, voilà, ça m'a permis aussi de travailler avec des gens super. Le patron de la librairie à ce moment-là, c'était quelqu'un de vraiment très intéressant, qui a une vie assez incroyable. Et. Donc voilà, encore une fois, c'est la possibilité de rencontrer des gens assez fous.
Donc festival, travail en librairie à Dialogue peut-être à Brest?
Ouais, j'ai bossé un peu au rayon BD à Dialogue, ouais. Un peu, quelques petits contrats par-ci par-là.
Et finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas libraire. Donc, que s'est-il donc passé?
Il s'est passé des choses en parallèle de tout ça, en fait.
Ah d'accord, c'est dans la deuxième vie, c'est dans une vie parallèle.
C'est ça, dans le métaverse, non, pas dans... Enfin, le multiverse. En fait, à côté de mes études d'histoire et de mon master pro métier du livre, je suis bénévole à Radio U, en fait. Moment, en fait. Je me retrouve à faire de la radio en même temps que je fais ça, en fait.
Mais bénévole, c'est pas un boulot, ça?
Bah non, mais je fais de la radio, ça me plaît bien, quoi. Je fais une émission de cinéma à Radio U et j'aime bien. C'est sympa.
Donc vous découvrez Radio U, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, hein?
Pas du tout.
Comment ça se passe? Parce que c'est pas tous les mondes. Moi, j'ai eu de la chance, grâce à vous d'ailleurs, de découvrir Radio U aussi. Comment ça s'est passé pour vous?
La rencontre avec Radio U?
Ouais, comment on arrive ici? Les chemins ne mènent pas à Radio U.
Bah, c'est un gros hasard. Hein. Je suis sur un banc à la fac de lettres, à Ségalin. Et je suis avec une copine, et là, il y a deux gars qui arrivent, qui connaissent ma pote, et qui lui disent « Ah, tu viens avec nous faire l'émission demain à Radio U ?» Elle leur dit « Bah oui, ok, je serai là. » Et puis là, il y a un des deux qui me regarde, qui me dit « Bah, tu veux venir aussi ?»
Ah, c'est vrai, comme ça.
Ouais. Mon éternelle habitude de dire un peu oui à tout ce qu'on me propose, je dis oui, ok, je suis curieuse de commencer là-bas. Donc, j'y vais le lendemain aussi. On me dit « Bah, regarde ce film, et on en parle demain au micro. »
D'accord, alors, devant le micro, ça se passe comment?
Donc à l'époque, il n'y a pas trop d'accompagnement et de formation des bénévoles, c'est assez limité.
On se jette dans le
bain.
Donc
finalement, je me retrouve en 24 heures à parler d'un film au micro avec un peu un statut d'animatrice, de co-animatrice de l'émission. Je pense que c'est... comment dire? J'aimerais pas réécouter cette séquence.
D'accord.
Parce que je pense que ça doit être très nul. Mais je me rends pas compte de l'étendue de mon ignorance sur le moment. J'y vais un peu pleine d'optimisme et je fais, mais c'est sans doute très nul, mais ça me plaît vachement. C'est-à-dire que très vite je me dis oh, mais c'est génial d'être dans un studio avec un casque, un micro, c'était marrant quand même ce truc, j'aimerais bien refaire, quoi.
Tout de suite vous trouvez ça génial, il n'y a pas le trac, il n'y a pas la peur de dire
si un peu quand même, mais ça l'intérêt en tout cas pour le média et pour ce que ça pourrait... Ce que je pourrais en faire, ça me parle bien. Donc, j'ai un peu peur et je suis plus ou moins consciente que j'ai des grosses lacunes, mais je me dis que je vais essayer de faire mieux à chaque fois et je tente le coup.
Tous les découvreurs ont une somme d'ignorance, sinon ils n'y arrivent pas. Si Christophe Colomb avait pensé que l'Inde était si loin, il n'y aurait pas été. Donc vous êtes bénévole et en même temps, vous travaillez ailleurs pour vivre ?
Non, je suis encore étudiante. Je commence en tant que bénévole à Radio U. Je suis en Master 1. Et donc, Master 1 recherche en histoire. Hein. Ouais, je suis déjà... Je suis en histoire au moment où j'arrive à Radio U. J'ai pas mal de temps libre parce que je suis en Master Recherche et que j'ai pas beaucoup de cours. Donc, ça me va assez bien d'avoir cette occupation-là à côté.
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous imaginez pas, sinon vous auriez peut-être fait une orientation universitaire en fonction de ça, vous n'imaginez pas que la radio est un métier, en fait.
J'imagine pas que ça puisse devenir mon métier.
Un métier non. Pour vous, en tout cas, ouais. D'accord. Juste, on s'éclate à Radio U.
Oui, c'est un passe-temps. Ça m'intéresse d'essayer de faire quelque chose d'intéressant. Alors, encore une fois, hein, je pense que c'est ça. Il y a finalement assez peu d'encadrement à l'époque. C'est très libre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit... c'est des bénévoles qui arrivent, qui animent un truc. C'est très, c'est amateur.
C'est quelle année ? Parce que ce n'est pas le début des radios libres, loin de là.
C'est il y a 13 ou 14 ans, je pense.
Oui, d'accord. C'est en 2010, quoi.
Ouais. Chose comme ça.
D'accord, parce qu'il y a eu une espèce de fièvre des radios, mais c'était en 1980, 85. Et donc, malgré tout, vous inscrivez en master média, métier du livre, vous continuez, et à la radio, ça se passe comment ? Comment tout d'un coup, vous commencez à regarder autrement cet endroit ? Voir, c'est ça qui est intéressant. Comment à un moment on commence à rêver, se dire tiens, c'est peut-être un boulot. C'est peut-être un boulot que je peux faire.
En fait, après mon master pro métier du livre et de l'édition, donc j'obtiens, c'est le démarrage normalement hein, de la vie professionnelle. Donc je suis censée là me lancer. Ça y est, j'ai un master pro, je dois chercher du travail. Ce qui est loin d'être simple, quand même, avec un master pro métier du livre et de l'édition en Bretagne, c'est pas gagné. Donc j'envoie quelques CV quand même à des maisons d'édition locales, mais bon, ça prend pas trop, ce que je peux comprendre vu les choix que j'ai fait dans mes stages et tout ça. Donc ça mord pas trop, et en fait c'est très rapidement hein, parce que je finis mon master peut-être en juin, juillet, avec les histoires de soutenance et tout ça, et donc je commence à chercher du boulot en août, septembre quoi. Et en fait je vois que Radio U recrute des volontaires en service civique. Ah, ça pourrait être sympa. Bon, en même temps, ça va être encore de la précarité.
Service civique, on peut parler du salaire, là, sans
C'est même pas un salaire, c'est un dédommagement. À cette époque-là, je crois que ça doit être 500 ou 550 euros par mois, un truc comme ça.
Et vos parents vous ont déjà plus ou moins montré qu'ils ne sont pas là pour vous aider ad vitam aeternam ?
Non, mais j'ai vachement de chance à ce moment-là. Je vis dans un appartement où je ne paye pas de loyer.
Ah bon ?
C'est très pratique. Oui, ça fait faire de grosses économies tous les mois.
Pourquoi ? Enfin, moi, si c'est pas... Pourquoi ?
Avec mon compagnon, on récupère l'appartement de sa grand-mère. En fait, elle est plus dedans, donc elle est toujours en vie. Hein. On la voit de temps en temps, mais en fait, elle peut plus vivre toute seule chez elle. Et on se retrouve à vivre chez elle, à titre gracieux. Appart à Brest, gratos. Donc forcément, quand on n'a pas de loyer à payer, c'est plus facile de vivre avec 500 euros par mois. C'est quand même pas beaucoup, mais c'est plus facile, surtout à deux.
Ouais, ça vous permet de fréquenter vos rêves, enfin d'y poser un pied en tout cas.
Ça me permet de passer beaucoup de temps à Radio U toute cette année-là en fait, parce que je fais mon service civique, donc je suis à 24 heures par semaine. Ce service civique-là, il consiste à animer une quotidienne d'info locale, qui est, c'est vous qui le dites, hein, qui existe toujours sur Radio U, de 18h à 19h en semaine.
Rapidement, c'est tous les jours, on reçoit quelqu'un de différent, c'est ça. Et il faut un peu improviser.
C'est une quotidienne d'info locale, donc on va recevoir des invités qui font l'info locale, enfin l'actu locale, donc ça peut être... le programmateur de la Carène ou la chargée de com de la Carène qui viennent présenter la prog. D'accord. Ça peut être un artiste qui se produit dans le cadre d'un festival, un auteur, ça peut être une asso sur des questions environnementales ou de solidarité ou d'insertion, enfin ça peut être plein de choses. Et donc moi déjà, enfin ça je pense que je suis assez curieuse, donc c'est assez chouette parce que c'est un super bon prétexte encore une fois pour rencontrer plein de gens, poser des questions aux gens, apprendre ce qu'ils font et tout ça, c'est assez cool.
Mais c'est pas intimidant? Par exemple, la directrice de la Carène, bon, ça peut être intimidant. Ouais,
c'est un peu stressant les premières interviews, mais je prépare quand même mon truc. J'essaye quand même de faire bien. J'ai quand même fait pas mal de radio avant, puisque j'ai été bénévole plusieurs années avant d'être service civique.
Oui, c'est
Donc, j'ai plus le trac du micro ou du casque ou quoi que ce soit. enfin, je veux dire, du retour sur la voix et du fait d'être en studio, quoi. Donc, j'ai plus ce stress-là. Et du coup, je suis vraiment... C'est plus, effectivement, d'être dans des interviews, de devoir préparer un direct tous les jours pour qu'à 18h, ça soit prêt. C'est vrai que c'est quand même un petit saut dans le vide. Donc, les premières semaines sont assez stressantes. Mais en fait, très vite, comme c'est quelque chose qui a lieu tous les jours, on se met vraiment dans le rythme. Et à côté de ça, j'anime toujours une émission de cinéma sur Radio U. Et j'anime aussi une musicale toutes les semaines avec des copains. Donc... En fait, je fais peut-être 9 heures d'antenne par semaine.
Oui.
Et en fait, je passe mon temps à Radio U toute cette année-là, quoi. Je passe vraiment, j'ai pas de taf à côté. Je ne fais que ça et je passe mes journées à Radio U, en fait.
D'accord.
Et donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a un truc qui se dit, enfin, qui se crée dans ma tête de ah, c'est sympa quand même d'être là.
Ok. Donc là, ouais. Mais le contrat service civique s'arrête, ça veut dire plus d'argent qui rentre, et même en ayant la part de la grand-mère, ça suffit pas forcément.
Ouais, bah à ce moment-là, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de mon service civique, il y a un petit élément...
Là, vous avez quel âge ?
Je dois avoir 23 ou 24 ans, je pense.
Ouais, c'est un âge où on commence à se dire, bon, comment on va vivre ?
Ouais, et à ce moment-là, en fait, il y a un petit truc qui se passe aussi à Radio U, c'est qu'en fait, à la fin de mon service civique, quasiment, il y a en fait, bah, ça arrive des fois dans les assos, c'est un peu cyclique, hein, quasiment tout le conseil d'administration, à ce moment-là, s'en va, en fait. Pour plein de raisons différentes. Tout le monde a de très bonnes raisons. Il y a des gens qui s'en vont, des gens qui repartent en études ailleurs, des gens qui ont donné pendant plusieurs années, qui, voilà, passent le relais. Mais en fait, il y a une grosse, grosse partie du conseil d'administration qui s'en va. Et comme j'ai passé beaucoup de temps à la radio cette année-là, que j'ai fait des émissions, mais que je me suis aussi intéressée un peu, bah, j'étais un peu curieuse, quoi, donc j'ai un peu regardé comment ça se passait, la gestion de l'asso, les dossiers de subvention qui étaient faits à l'époque. Parce qu'il
y avait déjà
quelques-uns.
Vous avez jeté des...
Ouais, bah, par curiosité un peu, quoi. Enfin, je suis là souvent, donc en fait, j'entends plein de trucs, donc je vois un peu comment ça se passe. Et en fait, les deux coprésidentes de l'époque, la présidente et la vice-présidente, me disent « Mais est-ce que tu n'as pas envie de reprendre en fait, le conseil d'administration de Radio U ? Faut qu'il y ait des gens qui connaissent un peu, qui reprennent. Là, il y a un gros renouvellement dans l'asso, tout le monde s'en va. Toi, tu as passé du temps ici cette année, tu vois un peu comment ça marche. Est-ce que tu ne t'investirais pas dans le conseil d'administration ?» Et je me dis, après tout, pourquoi pas ? Enfin,
ouais, mais sauf qu'à la fin du service civique, il va falloir bosser.
Oui, mais je me dis que je vais chercher du taf à côté, quoi.
D'accord.
Donc, je me dis que ça peut être un engagement bénévole intéressant de faire ça. Et puis, le projet, il me botte vachement, en fait. Enfin, j'ai passé un an à faire de la radio, à regarder un peu comment ça marche derrière l'antenne. J'ai pas envie de lâcher le truc. Je vois bien que tout le CA s'en va. J'ai pas envie que ça se plante. Donc je me dis, peut-être je peux faire ma part aussi, quoi, essayer de faire aussi avancer le projet à ma manière.
Et là, vous devenez présidente ?
Oui.
D'accord, quel saut quand même. Et donc là, il faut à la fois trouver un avenir à Radio U, parce qu'au départ, une radio, enfin tous les assos le savent, l'avenir n'est jamais tout droit et n'est jamais promis comme ça, on claque on les doigts. Il faut toujours agir, faire des choses, avoir des visions stratégiques, etc. Donc, vous prenez un risque professionnel et même vous lancez dans une aventure au sens propre du terme, c'est-à-dire on ne sait pas dans quelle direction les choses vont se passer forcément. Comment ça se passe déjà sur le plan professionnel et pécunier, enfin argent ?
Alors, cette année-là, en fait, donc je ne suis pas la seule à intégrer le conseil d'administration. Il y a d'autres bénévoles qui intègrent le conseil d'administration. Donc, on recrée en fait un CA qui a envie de faire des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une deuxième en fait, chose qui va jouer aussi dans mon implication à la radio à ce moment-là, c'est qu'en fait le conseil d'administration qui est démissionnaire, qui vient de s'en aller, s'est engagé en fait, auprès d'une jeune femme pour l'embaucher en, fait, en alternance en tant que chargée de communication. Donc je me retrouve à 24 ans, un truc comme ça, 24, 25 ans, à être tutrice de cette salariée de Radio U, qui est la première salariée vraiment de Radio U, qui est chargée de communication et qui est en alternance. Donc je me retrouve à être tutrice de cette personne-là et présidente de la radio.
Oui, c'est beaucoup.
Y a un gros... Enfin, là, j'ai beau être optimiste, positive, me dire « Allez, on y va, on essaye », il y a quand même un truc de se dire « Waouh, là, il va falloir que je m'investisse, que je passe du temps, parce que ce que j'ai sur les épaules, là, c'est quand même pas rien ». Donc il n'y a pas juste le fait de reprendre un conseil d'administration, il y a le fait d'en plus devoir gérer en fait la création de cet emploi-là.
Et de trouver qui l'argent pas, ouais, qui permet de, ouais. De
oui,
garder...
Ouais. Qui n'est pas une décision que j'ai prise, de devoir encadrer oui. quelqu'un qui est en plus dans une posture d'apprentissage, hein, qui est en contrat en alternance. Donc c'est une année qui est quand même compliquée, qui est vraiment pas facile à mener parce que c'est un gros challenge, parce que j'ignore tout en fait de gérer quelqu'un, d'apprendre à quelqu'un à faire de la com. Moi-même je n'ai jamais fait de com, enfin ça n'a aucun sens quoi. Donc tout d'un coup je me retrouve à un poste pour lequel je n'ai vraiment, j'ai du bon sens, j'essaie de bien faire, mais ça suffit pas quoi. Donc c'est dur, c'est vraiment pas évident. Et en fait en même temps je commence à discuter pas mal en fait avec d'autres radios associatives du territoire parce qu'on fait partie d'un réseau régional qui s'appelle la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Et il se trouve que je m'entends plutôt bien avec certains salariés d'autres radios associatives qui voient bien qu'à Radio il est en train de se passer quelque chose, qu'on essaye de transformer un peu l'essai. Il faut savoir que dans les autres radios associatives en Bretagne, il y a des salariés. À Radio il n'y en a pas encore, donc il y a ce premier contrat-là qui est créé. Et je pense qu'il y a vraiment une bienveillance au sein des radios associatives. Et moi, on me dit, mais vraiment, vous pouvez créer... Il faut que vous créiez un poste de coordination pour aller chercher du financement, faire mieux les dossiers de subvention. Vous avez vraiment une marge de progression. Moi, on me montre un peu ça. Puis je le vois aussi quoi, quand je regarde un peu les dossiers.
Est-ce que vous voyez le budget en face possible?
Ouais, assez vite en fait. Moi, je regarde les dossiers, je regarde la marge de manœuvre qu'on a, je regarde ce qui était bien fait dans l'asso, puis ce qui était moins bien fait, donc la marge de progression aussi. Et je me rends compte qu'il y a quand même effectivement un coup à jouer, quoi. Il y a quelque chose à faire. Donc le CA à ce moment-là me dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va te recruter toi. Tu vas démissionner de ton poste de présidente et puis tu vas en fait devenir salarié. Et c'est toi en fait qui va développer tout ça en fait, tu vas être...
Là ça fait une association avec deux salariés.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Et en plus, ouais. un salarié en alternance, ça ouais. coûte moins cher, mais un salarié, un vrai, ça coûte le double de son salaire à peu près. Hein.
Oui, en charge, ouais.
Mais c'est possible, ça semble possible, parce que c'est qui les financeurs
Alors le financeur principal à ce moment-là, et encore un peu aujourd'hui, mais dans une proportion beaucoup, beaucoup plus moindre, parce qu'on a débloqué d'autres financements, mais à ce moment-là, c'est le ministère de la Culture et de la Communication, par le biais d'une enveloppe qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui subventionne oui. Plus de 700 radios associatives en France, dont on fait partie. Donc c'est le gros du financement. Le dossier, au moment où moi je commence en tant que salarié, il est fait, mais il n'est pas forcément bien fait, mais ce qui est logique aussi. Hein. Je veux dire, tous les ans, c'est de nouveaux bénévoles qui le font. Chacun fait comme il peut, avec ses compétences, sans en avoir fait avant. Donc, voilà, c'est fait. Au moins, il est fait, il est envoyé tous les ans. Mais il y a moyen de le faire vraiment mieux. C'est-à-dire qu'en le faisant vraiment mieux, il y a moyen d'avoir plus de sous.
Il faut y travailler beaucoup ouais. aussi.
Et oui, il faut passer du temps.
Là, vous n'êtes pas salarié, donc vous êtes bénévole, présidente.
Cette année-là, ouais, avant d'être salarié, ouais.
Vous travaillez à côté, vous avez le temps?
Je bosse un peu, du coup, justement, je bosse un peu à Dialogue, au rayon BD. Je bosse encore un peu au bar, à oui. ce moment-là.
À Quimper, non?
Ouais, à Quimper.
Tout en habitant à Brest.
À Brest, ouais. Donc, je fais un peu les deux, mais assez vite, il faut monter une combine. C'est-à-dire que pour me recruter, en fait, en tant que salarié... l'idée, c'est qu'à l'époque, il y a un truc qui est assez cool qui s'appelle le CAE. C'est un contrat aidé. Et ce contrat aidé, en fait, il est hyper intéressant parce qu'en tant qu'asso, donc, on peut recruter des gens en CAE. Et c'est un contrat qui est subventionné en fait, par l'État. Donc, l'association ne prend pas en charge l'intégralité du salaire en fait, et des cotisations sociales liées à ce salaire.
L'État paye les charges, peut-être ?
Même plus que ça, en fait. L'État, en fait, sur le coût global du poste, salaire, charges comprises, l'État prend, c'est quelque chose comme 70 ou 80%, je crois, à ce moment-là. En tout cas, la première année. L'année suivante, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même...
C'est un contrat qui peut s'étaler sur plusieurs années.
C'est un contrat qui s'étale sur 2 ans. Ce contrat-là, ce qu'il y a de vachement bien, c'est qu'il nous permet de recruter quelqu'un pour chercher du financement, qui ne va pas coûter trop cher pendant 2 ans. Et l'idée, c'est que le poste, en fait, permette justement de développer des financements et que le poste, il soit pérenne à l'issue des 2 ans.
Il faut créer son travail après, quoi.
Ouais, c'est un peu Donc moi, c'est un peu mon challenge pendant 2 ans, c'est de se dire, bon, là, maintenant, je suis salarié. Là, j'ai 2 ans pour faire en sorte que l'asso elle puisse payer 100% de mon salaire dans 2 ans.
Ouais, là, on va un peu vite parce que là, il y a la transition intéressante. Parce que bon, vous êtes présidente, vous êtes bénévole et il y a tout ça qui arrive, tout ça qui est possible. Mais ce contrat aidé, c'est à eux, aidé à eux, c'est quoi ?
Je ne sais plus.
Bon, c'est pas grave. Ce contrat aidé, il suppose quelques qualités, quelques conditions de votre côté que vous ne réunissez, vous les réunissez pas toutes. Donc peut-être raconter le détail, voir le saut un peu. C'est, ouais. Moi, je pense à l'escalade. À un moment, on lâche une prise, on va prendre l'autre. Mais bon, il y a un moment, il n'y a plus de main qui touche la paroi.
En fait, pour pouvoir être recruté en CAE, il faut que je sois bénéficiaire du RSA. Ce qui n'est pas mon cas alors, à ce
donc,
moment-là.
Il faut être pauvre, ouais.
Parce que j'ai bossé. Du coup, je ne touche pas le RSA, je touche le chômage. Ouais. Et donc en fait le truc c'est de se dire bah en fait il va falloir que j'aille au bout de mes droits de chômage,
oui.
Que je les relance surtout pas, donc il faut pas que je bosse trop parce que si je bosse trop je vais relancer mes droits de chômage.
D'accord.
Et que bah en fait j'attende d'avoir été au bout de mes droits de chômage pour pouvoir toucher le RSA, et une fois que je serai au RSA je pourrai être recrutée.
Ça suppose un moment de descendre, ouais. Son niveau d'argent quand même.
Bah ouais, donc j'ai encore la carte appartement gratuit à Brest à ce moment-là, qui est bien utile. Et du coup, bah, ouais, je me retrouve en fait à...
Et peut-être votre conjoint aussi, ouais. Qui aide un peu.
Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, le fait
d'être
à deux,
c'est bien de le mentionner, parce que
c'est... Ah ouais, ouais, non, mais c'est un soutien indéfectible.
Super.
Ah oui, oui, non, mais clairement, oui, oui, c'est, ça fait complètement partie aussi de... Voilà, j'ai pu arriver à cette situation-là, et puis même Radio U, par la force des choses, en fait. Enfin, on a pu aussi se permettre... d'avoir comme ça des gens pendant quelques années qui se sont vachement impliqués aussi, parce que du coup moi j'étais dans une situation qui me permettait en fait de m'impliquer, quoi.
Ouais, moi je trouve ça étrange. Enfin bon, c'est donner un contrat aidé à quelqu'un qui est au RSA, ça veut dire vraiment d'attendre que les gens soient dans la panade totale.
Ouais. Oui, c'est pas forcément
enfin bon, pour vous ça a marché, et ça a marché pour Radio U, donc il y a une bascule, et tout d'un coup, ouais. Maintenant vous êtes salarié de Radio U, et c'est pas n'importe quel poste, puisque coordinatrice, j'avais noté, double coordinatrice, à la fois, je sais plus, c'est quoi ?
C'est à la fois tout ce qui est gestion administrative, donc aller chercher des financements, faire du développement de projets, faire des dossiers de subvention, gérer toute la partie ressources humaines, la compta et tout ça, et aussi bah, gérer en fait la coordination d'antenne, donc l'accueil des bénévoles, la formation des bénévoles, la grille des programmes, les programmes importés, voilà.
Donc ça pourra faire 2 postes, facile.
Oui, oui.
Aujourd'hui, ça en fait 2, d'ailleurs. Et, ouais. Et en plus, c'est vous. C'est vous qui avez rédigé ce poste, c'est ça, hein ?
Ah, c'est moi qui ai rédigé mon contrat, ouais.
Ça, c'est bien, hein, d'ailleurs. Moi, je ferai ça aussi, je ferai
c'est
ça
pratique,
aussi,
ouais.
Je ferai ça aussi, et je ferai ça aussi.
En fait, c'est...
Ça donne pas le vertige, ça ?
Si, un peu, mais en fait, c'est plus qu'au départ, si on se dit c'est nécessaire, en fait. Enfin, c'est... Il faut en passer par là pour que ça marche. Et du coup, bon, faut savoir que de toute façon, de manière générale, dans les radios associatives, et comme dans beaucoup, je pense, dans l'associatif en général, c'est beaucoup des gens qui sont très, très couteaux suisses et qui font plein de choses
Non, mais il y a des abus, justement.
Qui sont hyper polyvalents. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir
des abus. Il y a
des
abus, on l'a vu, je ne sais plus, dans des assos très connus. Je ne sais pas si c'est Médecins du Monde. Mmh. Enfin bref, ouais.
Dans mon cas, à ce moment-là, ça me convient. Ça m'intéresse. Et je trouve justement que, en fait, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses hein, qui sont faites déjà à Radio U avant que j'arrive. Hein. C'est pas... Je ne porte pas tout ce projet sur
non,
mes épaules.
Sûr, ouais,
il y a
ouais.
Tout un conseil d'administration avec moi. Il y a des bénévoles qui sont investis. Il y a des gens avant ça, je pense notamment... Enfin, là, par exemple, la fréquence permanente qui fait qu'on émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'on peut avoir le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ça, c'est un autre conseil d'administration qui, en 2007, s'est dit à un moment donné, allez les gars, on y va. Ouais. On porte ce projet-là qui est hyper lourd, hyper ardu à monter pour avoir cette fréquence permanente et qui, à un moment donné, le font. Donc, il faut voir vraiment ça comme une œuvre collective, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est toujours un stade de l'aventure. La radio, elle a plus de 20 ans. Une équipe qui se dit, bon, allez, là, allez, on se lance, on porte ce gros projet-là. Là, par exemple, on a un projet de déploiement à Quimper et Morlaix. Bah, c'est énorme, en fait, comme projet, parce que si, enfin, là, on est retenu hein, par l'ARCOM, on sait qu'on va y aller, mais là, on est en train de chercher des locaux, on est en train de chercher des financements pour développer les stations, parce qu'on va vraiment produire des programmes dans ces deux villes-là.
Parce que l'ARCOM ne va pas forcément fournir le budget nécessaire pour...
L'ARCOM ne donne pas d'argent. L'ARCOM gère les fréquences, dit, vous avez le droit d'aller là ou pas d'aller là, ils reçoivent les dossiers, mais c'est pas des financeurs, l'ARCOM. Et en fait, c'est pareil, c'est un gros chantier qu'on est en train de porter à plusieurs. Et si tout va bien, dans un an et demi, on couvre tout le département du Finistère, quoi.
D'accord. Ouais.
Donc, c'est pas mal. Et puis, c'est pareil, en fait, c'est une nouvelle étape. Et c'est encore une fois toute une équipe qui se dit « Allez, là, on va tenter ce truc-là, on y va et on essaye de le faire, quoi. »
Nous retrouverons Morgane dans le prochain numéro de « Un bon boulot ». Où elle nous détaillera ses fonctions de coordinatrice et sa vision de l'avenir et du rôle de Radio U.